Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Parlons droit, ici à la radio Envol 91 FM. L'émission Parlons droit vous vient de la part du Centre Infojustice Manitoba, qui est un centre d'information juridique pour les francophones. Tous nos services sont gratuits et confidentiels, notre mission étant d'améliorer l'accès à la justice dans la langue française au Manitoba. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon collègue Kate Kabangu aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi, comme d'habitude, un grand invité, Maître Jean-René Dominique Quilloux, avocat au cabinet Nkanabassi Legal Consulting. Et puis, justement, on voulait voir aujourd'hui comment ça s'est passé tout ça, maintenant le travail d'avocat, et même avant ça, faire le recul pour parler de comment on aime parler avec tous nos invités. Comment vous êtes même abouti dans cette position d'avocat maintenant, c'est-à-dire par où a commencé tout ce parcours?
Ben merci pour votre invitation et puis bienvenue hein, à vos auditeurs et vos auditrices. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Si on commence au commencement, comme je dirais, évidemment, je suis un Canadien, j'aime bien m'identifier comme Afro-Canadien, j'aime bien ça, Africain-Canadien, d'origine, racine de la République démocratique du Congo, fièrement. Je suis toujours à cheval de Winnipeg et Montréal, j'ai fait des études primaires à Montréal jusqu'en secondaire 2, je dirais. Je pense que l'équivalent, ce serait comme junior high. Et puis, ma famille, on a déménagé à Winnipeg. J'étais au secondaire, donc j'ai fait mon secondaire à la division scolaire franco-manitobaine, la DSFM. J'étais au centre scolaire Léo Rémiard, c'est ça. Tout le monde m'appelait junior ou papy ou papy junior. C'était pour les intimes, tout le monde me connaît comme ça. Et puis quand j'ai fini, j'ai étudié. J'étais allé faire le premier cycle à l'Université du Manitoba. J'ai étudié l'économie et les Labor Studies, Labor Studies à l'Université du Manitoba. Et puis après, quand j'ai terminé, il fallait faire le droit. Je suis retourné à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, pourquoi? Évidemment, je suis un peu montréalais. Et puis, c'est une histoire, c'est un peu familial parce que mon père est docteur. Il a fait sa maîtrise en santé publique à l'Université de Montréal. Donc, du coup, j'ai fait le droit. J'ai étudié le droit civil et la common law. Et puis après ça, comme j'aime bien étudier, j'ai dit, papa, j'ai fait une maîtrise en droit comparé. Et puis, c'est ça. Et puis, je suis revenu pour... vous allez comprendre pourquoi. Je me suis dit, je voulais rester sur Montréal un tout petit peu. Puis après, j'ai vu, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avocats. Je ne suis pas bilingue, mais vraiment francophone au Manitoba. Et puis, je me suis dit, écoutez, la communauté en général francophone en aura plus besoin. Donc, je suis retourné. Et puis, comme Maître Bassi, c'est un ami de ma famille, de parler tout ça. Donc, je connaissais déjà un peu. Donc, j'ai fait le stage. Il était mon maître de stage. On a fait le stage ensemble. Et puis, voilà. Et puis, après, je fais les examens du barreau. J'étais appelé au barreau. Et puis là, on pratique ensemble. Et puis, on fait notre bout de chemin. Puis, vous avez me dit, pourquoi le droit? Écoutez, c'est... En général, moi, je suis un peu un généraliste. Quand j'ai pris le truc, je me suis dit, c'est très intéressant de comprendre un peu le côté juridique de choses, de comprendre un peu le côté économique. Et puis ça, c'est vraiment le pilier d'une société. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'économie. J'ai fait aussi les labor studies pour comprendre le système économique, l'emploi, etc. Et puis après, je me dis, on va boucler la boucle avec un peu une formation juridique. Comme ça, on va comprendre l'aspect juridique de la chose. Et puis, ça permet juste d'avoir une formation un peu plus, un peu plus globale. Et puis, ça permettra aussi d'avoir les mêmes compétences, de le transférer dans n'importe quel domaine. Mmh. Et puis, voilà, je ne suis pas de ceux qui se lèvent déjà. Ils savent, moi, je vais faire ça dans la vie, Je sais pas, peut-être dans 2 ans, je vais faire autre chose de ma vie, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça, une longue réponse, mais un peu.
Non, mais c'est... C'est juste. Puis je pense que naturellement, probablement que les compétences en droit sont venues appuyer les connaissances que tu avais déjà c'est ça, en emploi, labor, les économies, tout ça. Et en même temps, peut-être que ces connaissances-là viennent appuyer maintenant ton travail comme avocat. Alors, rien n'est gaspillé, même si on fait un parcours qui va peut-être un peu à gauche et à droite parfois.
Tout à fait, tout à fait.
Tu as aussi parlé d'une maîtrise, bien entendu, au Québec, là où tu as fait tes études, c'est le droit civil, mais tu as bien dit que tu as fait une maîtrise, ou même le bac en droit était un bac, c'est-à-dire partagé, tu as étudié les droits civils et la common law, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est un programme double. Vous faites le droit civil et puis et la common law. Bon, il faut aussi clarifier une chose déjà, ça aussi les gens ne comprennent pas. Les avocats québécois sont vraiment ce qu'on appelle en droit les biches juridiques, hein, parce que vu la composition du Canada, une confédération, même au Québec, tout ce qui est d'une matière fédérale, par exemple le mariage, l'immigration, le droit criminel, tout ça, même quand tu fais un bac purement en droit civil, tu fais de la common law, parce que ce sont des compétences fédérales, donc de toute façon, c'est de la common law. Et puis ce qui est du droit privé, les contrats, tout ce qui est vraiment assurance, machin, les particuliers entre eux, à l'opposé de particuliers avec l'État, ça c'est le droit civil, donc c'est le Code civil du Québec. Donc déjà au Québec, il y a déjà cette formation-là, bijuridique ensemble, mais j'ai quand même fait, donc fini le droit civil, et puis j'ai fait la common law. C'est intéressant, c'est un programme où vous faites la common law canadienne, et puis il y a aussi le composant de la common law britannique, parce que c'est venu de là, et puis un peu la common law américaine, par exemple le droit constitutionnel américain, les torts et tout. Donc c'est vraiment un bon programme. Et puis je vais compléter ça, j'ai fait une maîtrise en droit comparé, spécifiquement en droit de contrat. J'ai écrit mon papier sur l'obligation de bonne foi, l'obligation de bonne foi dans la négociation de contrat en common law, hein, dans les pourparlers contractuels, parce qu'il y a
D'accord.
Il n'y a pas vraiment une obligation générale comme ça. Et ce qui a mis ça, c'est qu'il y a eu une décision de la Cour suprême qui s'appelait Bassin, décision Bassin de la Cour suprême, qui est venue en. Parce qu'en droit civil, il y a déjà l'obligation de bonne foi dans la phase précontractuelle, pendant l'exécution de contrat et jusqu'à l'extinction des obligations contractuelles. Et puis
D'accord.
là, en common law, la Cour suprême a dit que voilà, il y a un principe directeur. Il y a un principe directeur. D'exécuter des contrats en bonne foi. Et puis là, il y avait déjà des discussions, évidemment, les gens ont critiqué, mais ils discutaient déjà que s'il y a une autre décision qui arrive à la Cour, il y a une possibilité que la Cour va étendre cette obligation-là, parce que bon, ça ne fait pas de sens s'il y a l'obligation dans l'exécution, et ben, pourquoi pas il y aurait l'obligation dans la création même de ces mêmes obligations-là lorsqu'on négocie ces obligations-là qui vont former le contrat. Et puis, je lui portais une petite contribution, une petite, hein, tout petit peu. Et puis, mon papier argumentait que oui, il doit y avoir cette obligation-là générale de négocier les contrats, même en commandant en bonne foi. Mais mon argument était que ce n'est pas nécessaire parce que ces obligations-là existent déjà dans des petites doctrines comme ça, séparées, dispersées. Mais si on met ça ensemble, vont constituer cette obligation. C'est-à-dire qu'elle existe déjà. Mais dans différents, par exemple, si on fait un common law, il y a par exemple estoppel, quand les gens font estoppel, quand les gens parlent par exemple de unjust enrichment, par exemple de misrepresentations, tous ces genres de doctrines-là, de la common law, si on voit comment sa fonctionnalité, comment ça fonctionne vraiment,
Ce que ça évite.
c'est ça, ça évite la mauvaise foi, ça évite la mauvaise foi. Et donc, ça existe comme ça, et de façon éparse, c'est juste de les mettre ensemble, comme ils ont fait dans vraiment la même technique, comme ils ont fait pour l'obligation dans l'exécution des contrats. C'est-à-dire que de prendre ces différentes doctrines-là, de les mettre ensemble, de l'harmoniser, de les clarifier, de définir et de faire cette obligation-là. Bon, je crois que ça va arriver. Ça, c'est mon opinion, ça va arriver. S'il y a une décision qui donne l'opportunité à la Cour de faire ça, je pense qu'ils vont l'étendre en droit, en common law et également. Donc, c'était un peu ça.
Très intéressant, très intéressant. Et puis, c'est naturel qu'on voudrait avoir ce parallèle entre la négociation ou l'exécution du contrat et tout ça, mais on voudrait en même temps, on veut le parallèle entre, ou dans la mesure possible, entre les provinces Common Law et la province du Québec, naturellement.
Oui, tout à fait. Au Québec, quand on apprend même le premier cours d'introduction, par exemple l'introduction au droit, et on apprend aussi le côté de common law, c'est-à-dire que le raisonnement, par exemple, la règle du précédent, hein, stare decisis, la règle du précédent, le pourquoi de la règle du précédent, le case law, les différents raisonnements, les syllogismes et tout ça, comment ça s'applique à common law, différemment de comment ça s'applique en droit civil. Et il y a aussi des incompréhensions. Les gens pensent qu'au Québec, c'est seulement la doctrine ou bien le code, mais il y a beaucoup de décisions qui sont quasiment les juges qui interprètent même les dispositions et les juges. Il y a toute une jurisprudence. Donc, si on regarde vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de différences tant que ça, parce que les gens, les juristes même francophones, québécois, ils vont se référer aux décisions de la Cour qui peut venir clarifier, peut venir restreindre la portée d'un article, ou bien peuvent élargir, ou peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire par ici. La jurisprudence joue quand même son rôle.
Ouais, ouais.
Évidemment, l'évolution, c'est différent. En common law, là où c'est vraiment les juges qui donnent l'impulsion, mais même en common law, lorsque les législateurs légifèrent sur une disposition, bien sur une loi, et puis c'est clair, ben, c'est la loi qui aura préséance sur la décision du juge, par exemple, à moins que le juge fait un peu, il veut clarifier, il dit que la loi était ambiguë, des trucs du genre. Là, on va. Et je pense que même de deux côtés, les juristes, même ici, hein, ont intérêt, juste pour avoir une idée hein, de la pensée civiliste, parce que ça se chevauche aussi, par exemple, quand tu pratiques en droit de la famille, comme je le fais aussi. Je veux dire, c'est. Par exemple, les juges civilistes québécois, comme c'est une matière fédérale, lorsque c'est, par exemple, le mariage, le divorce et qu'il y a des enfants, il faut faire les pensions alimentaires et tout ça, il va appliquer la même logique que son collègue de common law. C'est vraiment dans des décisions que s'ils ne sont pas mariés, que c'est les aliments sur des couples qui ne sont pas mariés, tout ça, là, il y a des spécificités, mais il n'y a pas tellement de différences que ça parce qu'on veut harmoniser les mêmes règles pour tout le monde. Moi, je vois ça comme une avenue, c'est-à-dire que tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire que la common law et la loi civile, on peut emprunter de chemins différents, mais on se rejoint par rapport aux conclusions juridiques, par exemple. Évidemment, ils vont emprunter notre raisonnement, mais on arrive... conclusion juridique semblable, donc à la fin, c'est similaire. Donc, il y a plus de similitudes que des différences.
Et maître, dans la pratique, vous êtes avec maître Benjamin et tout ça, en tout cas, je suis très content. Mais je voulais savoir, parce que nous voulons que le public puisse... Je sais que vous êtes beaucoup plus connu, bien sûr, mais quand même, nous voulons que le public, d'autres qui ne vous ont pas encore découvert, qui puissent vous connaître. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans les domaines où vous évoluez beaucoup plus hein? Parce qu'il y a beaucoup de domaines. Il est vrai que les avocats ne sont pas généralistes. Il y a des spécificités quand même, on voit des cours de manière générale. Mais vous vous penchez beaucoup plus dans quel domaine pour quand même que les gens puissent vous découvrir. Et au cas de besoin, ils peuvent peut-être faire recours à votre cabinet en général.
Oui, ah ben c'est une question. Bon, je dis bon connu, je veux dire c'est un peu de beaucoup de francophones. Excusez-moi, ils sont étonnés quand parce que comme je dis, nous on est vraiment un cabinet. Oui, nous sommes parfaitement bilingues, hein, pas ça, mais oui. On est vraiment francophone, et ça peut se faire attester même au cours du banc de la reine avec la greffière, la registraire en chef. Vous allez voir Madame Riette là qui est là, mais je vais vous dire. Moi, les actes introductifs d'instance jusqu'à la fin, je sais que j'énerve beaucoup au cours du banc de la reine, mais je le fais exprès. Tout est en français. Je le fais exprès. Les actes de procédure sont en français. Même de l'autre côté, si c'est un anglophone, ils sont obligés de faire traduire les requêtes, les mémoires de triage. Je demande des conférences en français tant que s'ils veulent prendre des interprètes. Voilà. C'est ça aussi, peut-être plus tard, on va développer parce que moi je ne suis pas une victime. Hein. Moi j'aime le combat, moi, j'aime la résistance. Surtout quand on est en minorité, il faut aller cogner. Oui. Donc, oui, on est là. Pour répondre spécifiquement, fait beaucoup du litige, que ce soit du litige civil, qu'est criminel. Bon, le droit pénal, nous sommes dans la défense, évidemment, hein, nous ne sommes pas des procureurs, nous autres, nous sommes dans la défense. Le droit de la famille, le droit de la famille, prend aussi une grande partie, vu les besoins de la population, le droit de la famille, que ça touche les séparations, les divorces. Les arrangements parentaux, les aliments tant pour époux que pour enfants, ça peut être la garde, mais pour genre de guardianship, la garde, l'accès des grands-parents, quand les parents ne veulent pas que les grands-parents puissent avoir accès à leurs petits-enfants, on fait ça aussi beaucoup, des variations des ordonnances de la cour, que ce soit sur. Bah, sans ordonnance sur les aliments, sur les pensions ou bien sur la garde. On fait ça, on fait l'immigration, le droit d'immigration, évidemment. Oui, en général, mais moi, personnellement, j'ai plus une spécialité sur les demandes d'asile et les appels. C'est moi quelque chose, une spécialité. Et puis, voilà en général, mais les autres aussi, comme je dis, ont une curiosité. Par exemple, dans mes temps libres, moi, j'ai une curiosité. Par exemple, je fais la philosophie du droit, l'histoire du droit, mais ça, c'est juste personnel, mais de tous les jours, on fait ça. Et puis, ça, c'est vraiment, on va dire, le gros. Et puis, on fait aussi le droit immobilier, résidentiel ou pas, les droits immobiliers. Donc, la vente, là encore, je m'assure que même le registre des titres fonciers, les land titles, ils m'aiment pas beaucoup parce que je l'ai en force, je dis, ah, moi je veux des documents français. Et puis quand je le dis, je dis, c'est pas bien interprété, c'est pas ça le mot. Et puis bon, c'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. Donc on fait aussi le droit immobilier. Et puis voilà, voilà un peu. Mais les autres aussi, hein, le droit de l'emploi, le droit de, comme l'avocat, on est généraliste. Mais vraiment, ce que je veux dire de tous les jours, vraiment, on se concentre là-dedans. Et puis, je fais aussi les droits de marché financier. Comme j'ai mes propres intérêts personnels que je fais, mais également, il y a aussi le truc du cours. Mais si vraiment, pour résumer, droit pénal, droit de la famille, droit immobilier, droit de l'immigration et litige civil, lorsque vous réclamez le truc litige civil en général, et puis voilà, on se cantonne là.
Moi, je suis vraiment très content. Surtout, j'imagine aussi que ceux qui nous suivent sont très contents aussi parce que il est arrivé un moment donné où on ne pouvait pas trouver un avocat, peut-être, qui pouvait œuvrer en droit de la famille. Donc, c'était un peu difficile, mais si aujourd'hui on trouve votre cabinet en train d'œuvrer aussi dans ce domaine, c'est quand même très encourageant et aussi, ça va être vraiment très, très bien applaudi par la population, c'est ça. Parce que c'était difficile au niveau de Winnipeg ou Manitoba ici de trouver un avocat bilingue, je souligne bien, parce qu'on peut trouver des avocats francophones, mais bilingues, mais qui œuvrent dans d'autres domaines, surtout en droit de la famille. C'était un peu difficile à un moment donné, une carence totale. Mais
Oui, ben
votre
c'est
cabinet
bien
est
que
là.
c'est bien que mentionner ça. C'est comme je dis, on est là. Et puis en même temps, ça c'est une petite remarque que je fais faire. On est là. Oui, les anglophones, ou évidemment, c'est la population, les anglophones sont et tout ça. Mais le francophone sont frileux, hein, ils viennent pas aussi. Donc on est là. Il y a des ressources comme InfoJustice. Je pense que s'ils appellent InfoJustice, par exemple, ils ont l'annuaire, ils disent qu'ils ont l'intérêt là de le faire en français. Ils vont les diriger vers nous autres ou d'autres collègues qui peuvent leur assister. Évidemment, il y a beaucoup de carences parce que, par, comme je peux vous dire, vous savez, c'est pas ici qu'on se fait des millions. Hein. Il y a plein qui préfèrent le droit commercial et tout ça. Et puis, au point de vue aussi, on parle beaucoup de la santé mentale, mais il y a beaucoup de gens qui négligent aussi la santé mentale des avocats. Si vous regardez même au point de vue des suicides, des trucs comme ça, il y a beaucoup d'avocats qui se suicident ou bien qui sont dans des addictions parce que, surtout dans le droit de la famille, c'est des droits qui sont vraiment émotionnels, émotifs, c'est très chargé. Des fois, on encaisse les frustrations, ça peut être des clients ou de l'autre partie adverse, des frustrations, on se retrouve au milieu, donc on doit encaisser ça. On a aussi des vies, on a aussi des familles. Donc, il y a beaucoup de raisons qui poussent, il y a beaucoup de juristes qui ne se dirigent pas vers là. Mais on est là, on est là. Si ça peut aider à nous faire connaître pour d'autres francophones, on est là. Et c'est pour ça, plus tard, on va parler de les francophones aussi. Je le vis tous les jours, hein, quand tu envoies un document en français. ça va prendre le temps, bien la cour, ils n'ont pas des interprètes, les documents, tout ça, ça c'est de lacune. Il est ça, je leur dis tous les jours que je suis à la cour, je me fais le devoir de le dire parce qu'ils doivent le savoir. Donc, c'est ça aussi, moi, l'appel que j'ai en francophone, c'est que oui, il y a beaucoup de barrières, mais il faut résister, il faut être là. Nous sommes là, nous sommes dans la cité, mais il faut résister, il faut aller pour pas qu'on leur donne l'excuse qu'ils vont utiliser, l'offre active n'est pas là, il n'y a pas beaucoup de francophones qui utilisent le service, tout ça, non. Il faut que nous-mêmes, on prenne ça. Oui, je comprends, comme j'ai dit, droit de la femme, droit criminel, ça peut être... quoi qu'en droit criminel, c'est un peu mieux qu'en droit de la famille. Ça peut être différent vu que vous vivez une situation assez difficile. Mais voilà, il faut intérioriser ça, qu'on est dans une situation minoritaire. Nous avons des droits qui sont enchâssés constitutionnellement. Donc, ce n'est pas comme si nous sommes là en train de quémander. Ce n'est pas comme si nous sommes d'être là pour de beaux yeux. Ce sont nos droits. Ce sont nos droits de tous les francophones. Le français n'est pas une langue secondaire, c'est une des langues du Canada. Donc, il faut donner des coups. Il faut donner des coups. On n'est pas là pour le monde des bisounours, des bisous. Là.
Maître Jean-René Dominique Quilou est avec nous en ce moment. On est là à l'émission Parlons droit. C'est à la radio Envol 91. On apprécie beaucoup cette lutte. C'est vrai qu'il y a, des lacunes, il y a des problèmes, il y a des formules qui n'existent parfois pas en français. Il y a des sites web d'information juridique qui n'existent parfois pas en français. Alors, d'avoir ici dans notre communauté là, des avocats vraiment forts, francophones, mais bilingues, ça fait vraiment toute une différence. Et puis, je pense que ça soulage cette communauté. Alors, on dit « on est là ». Je pense que ça vaut la peine, encore une fois, si Maître Jean, René, Dominique, comment on peut accéder au service pour nos auditeurs et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Si on a besoin, on vient d'écouter tous les domaines, c'est assez vaste. C'est une équipe. C'est les droits, on a parlé de la famille, des droits immobiliers, des droits
pénales. J'ai oublié de mentionner, on fait aussi j'ai oublié, en t'entendant parler, tu m'as inspiré là, je me suis rappelé. J'ai oublié de dire, on fait aussi les testaments, c'est très important, les testaments. Les procurations, par exemple, tu vois, les testaments, wills, estate, probate, les procurations, que ce soit power of attorneys, j'ai oublié de mentionner.
Les procurations. Alors, c'est-à-dire tous les domaines vraiment les plus communs, même que les monsieur, madame, tous les jours auront peut-être besoin.
Moi, j'appelle ça les droits sociaux. Voilà, j'ai dit à tous les droits sociaux. Moi, je fais les droits sociaux.
Excellent.
J'ai dit, je fais les droits sociaux. Ben, on est, encore une fois, pour montrer l'effort, on aurait pu se mettre au centre-ville, comme tout le monde, faire bon chic, bon genre, faire un truc chouette. Ça ne nous intéresse pas. On est au cœur de Saint-Boniface, donc pour montrer cet aspect-là, l'ancrage. Donc, on est situé au 625 sur la rue Marion. 625, la rue Marion. À Saint-Boniface, donc c'est ça. Le numéro, bon, le cabinet, c'est comme Maître Tarek l'a dit, c'est le NBS Legal Consulting, mais voilà, ne vous inquiétez pas, le nom ne doit pas vous penser, on est francophone. Et puis le numéro général du bureau, c'est le 204-594-3608, donc 204-594-3608. Notre télécopieur, c'est le 204-480-7021. Ça, c'est le télécopieur. Mon numéro direct pour me rejoindre ici à mon bureau, c'est le 204-930-8595. Nous avons aussi notre site web, c'est le www.nbslegalconsulting.com. Vous allez trouver nos profils qui sont là. Vous pouvez nous envoyer un email. Je sais pas, je vous donne mon email également. C'est J comme Jean, R comme Robert, D comme Dominique, et puis K W I L U, donc J R D Quilou, à commercial ou @nbslegalconsulting.com. Voilà, je suis assez rapide à répondre. Comment est-ce que je sois en cours ou quelque chose comme ça? Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes là, nous allons vous assister. Et puis, en même temps, ensemble, avec des groupes comme Info Justice et nous tous, tout le monde, la francophonie manitobaine, on va continuer le combat. Voilà, on est là, on a vocation à exister, on va continuer à exister. Et puis, on n'ira nulle part. Voilà.
Mais à part le travail d'avocat, mais on doit te découvrir aussi dans d'autres aspects. Mais ici, là, nous découvrons que tu es aussi directeur exécutif du comité d'action politique. Et là, on s'est dit, mais ce n'est plus la profession d'avocat, c'est une autre filière là que vous poursuivez. Alors, on veut que tu puisses nous parler un peu de ça pour comprendre comment tu associes les deux et qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là.
Ouais, ben merci pour l'opportunité. Bien, c'est une bonne coïncidence heureuse parce qu'on tombe aussi dans le mois de l'histoire des Canadiens noirs. Hein. Moi, je dis très important, des Canadiens noirs. Et puis, vous allez comprendre pourquoi de cette implication-là parce que, bon, peut-être, comme on ne voit pas vidéo, mais on l'entend par ma voix, je dis, ben, moi, je suis, bon, je dis, arrête bien un bon mot, mais voilà, moi, je n'encaisse pas, hein, je n'encaisse pas et puis je mets dans mon coin. Moi, je donne des coups. Je donne aussi, je sais en donner. Évidemment, pas la violence. Hein, je parle bien intellectuellement et évidemment rhétoriquement. On n'appelle pas la violence. Donc, c'est aussi pour dire que nous ne sommes pas des étrangers ou bien des citoyens des secondes zones et tout ça. Donc, nous sommes des voisins. Nous sommes là avec tout le monde, de par chacun, de par ses origines. Moi, je suis pas là pour juger chacun par ses origines. Nous sommes Canadiens, en tout cas pour ma part et pour beaucoup. Et puis, il y a beaucoup d'aspects de la société, de notre société, qu'on doit être présent, on doit s'impliquer. C'était juste par rapport à ça. Et comme vous disiez, pour moi, tout est politique. Tout politique, je ne parle pas de la chose politicienne des élections et tout, mais je parle politique de l'organisation de la vie de tous les jours, d'une place dans la place publique, de comment la place publique est organisée. Qui a droit de citer, qui n'a pas droit de citer. Et puis, là, le comité d'action politique plateforme, là, c'était pour des jeunes Canadiens noirs, de par leur, moi, je m'en fous de vos affiliations politiques, vous pouvez être conservateur, libéral, NDP, parti vert, indépendant, radical, machin, truc chouette, ça ne me concerne pas. Les buts ici, c'est la représentativité. Pour ceux qui sont soucieux, ils veulent faire de la politique. Donc, on offre un encadrement, l'encadrement, on fait des séminaires, dans un encadrement sur l'organisation au point de vue politique, à l'opposé de l'activisme, parce que moi je fais très une différence entre organiser quelque chose et l'activisme, qui est très honorable, qu'eux ils sont là pour pousser. Moi je parle d'organiser des structures pour intégrer des sphères de pouvoir, parce que, encore une fois, comme je disais avec les francophones en général, moi je ne suis pas là pour quémander, on ne quémande pas, hein, on ne quémande pas avec l'humanité des gens, on est là, nous sommes des citoyens, nous payons des taxes, nous sommes là, comme dans tout autre, on a des bons, on a des mauvais, on a des criminels, pas des pas bons, voilà l'humanité en fait, quoi. Donc, pour ceux qui veulent la représentation, que ce soit au point de vue municipal, hein, le conseil municipal, qui ont vraiment direct avec vous autres, que ce soit au niveau provincial, en tant que député provincial, que ce soit au niveau fédéral. Voilà, il faut être là, il faut faire savoir notre présence, il faut organiser, il faut créer ce rapport de force-là. Et puis, c'est vraiment ça, c'est vraiment aux jeunes, au-delà juste des manifestations, au-delà juste, c'est vraiment des outils, des connexions, comment on organise, comment on se comporte politiquement, les profils. Et tout ça, et faire aussi des trucs de mentorat, c'est très important parce qu'on ne fait pas cet travail-ci tout seul. Il faut des aînés ou d'autres personnes qui sont chevauchées, qui font bénévolement, qui aident, qui donnent de leur temps le mentorat. Il y a d'autres politiciens, de fois, qui ne sont pas nécessairement noirs non plus. Hein, donc, il ne faut pas délirer. Allez, j'aime pas trop cette côté-là. De racialiser les gens, mais malheureusement, c'est la société dans laquelle nous vivons. Mais nous avons des politiciens canadiens de bonne volonté de partout, que ce soit blanc, noir, machin, violet, rouge, vert, je ne sais pas moi de quelle couleur vous avez. Ils sont là, qui sont l'intérêt de voir des jeunes émerger, des jeunes qui veulent participer dans leur société. Ils sont là pour donner de l'aide. Et puis, en parallèle, j'anime une émission. Bon, pendant le Covid, un peu, ça a pris. Une pause, j'anime l'émission qu'on appelle ça Conversations in Black, Conversation en noir, où j'interview l'entrevue avec des Canadiens noirs, que ce soit en politique, que ce soit dans la société tous les jours, sur leur parcours, sur la politique en général, comment on voit, comment on s'implique, comment on participe positivement dans nos communautés respectives, dans nos provinces, dans nos villes, pour s'assurer que nous continuons hein, cette aventure d'essayer de créer un Canada plus inclusif, un Canada plus juste pour tout le monde. Voilà. Et de par notre passé, on n'excuse pas notre passé, on comprend, on fait de faire mieux et puis on essaye d'avancer ensemble. Donc, il y a les épisodes, c'est sur YouTube. Vous pouvez, on invente des verbes, là, les googler. Donc, vous pouvez les googler sur, voilà. sur YouTube. Donc, voilà, Conversations in Black. Ou bien, vous allez voir, on a eu, par exemple, avec maintenant, il est à la retraite, le chef de la police, le premier chef noir du service de police au Canada, le chef Devon Clunis, qui était d'ailleurs aussi inspecteur général de la police en Ontario. Il a encore pris sa retraite. Donc, voilà, il était là. Lorsqu'on a parlé de la brutalité policière, comment la différence entre la police et la sécurité communautaire, exactement différentes fractions, comment différentes fractions de la société, voilà, les relations avec la police. Je parlais avec plusieurs députés, par exemple, avec M. Craig Fergus, qui est maintenant le secrétaire parlementaire du Premier ministre Justin Trudeau. Il est aussi le président du caucus des parlementaires noirs du Canada à la Chambre de communes. Donc, on a parlé de sa carrière, de son implication et tout ça. Il y a eu Mme Selina Caesar-Chavans, qui était aussi députée. Elle était aussi secrétaire parlementaire. Elle a discuté aussi de son parcours, des difficultés qu'elle a vécues comme personne noire au Parlement, dans la Chambre de communes, tous ces actes de racisme-là du quotidien de tous les jours. Et aussi, j'ai parlé avec Mme Anani Paul, qui est la première canadienne noire d'être chef d'un parti politique fédéral. Elle était pour le Parti vert du Canada. Et puis, elle a parlé de comment elle est arrivée, tout ça, et aussi des défis auxquels, comme on a vu pour ceux qui suivent l'information, des défis auxquels elle a pu faire face. Donc, on a discuté. J'ai également parlé avec Mme Goudreau pour montrer la diversité du Bloc québécois, hein, du Bloc québécois, ou parler de la souveraineté, de dépendance du Québec. Il y a beaucoup de Québécois noirs, des Canadiens noirs qui supportent aussi le mouvement nationaliste, indépendantiste québécois, les spécificités donc de parler comment aussi à l'extérieur du Québec, le Parti québécois peut être vu comme des relents un peu racistes et tout ça. Donc, toutes ces questions-là, vraiment, c'était un bâton rompu. Le but, ce n'est pas vraiment, comme moi je dis, moi je suis là pour créer des ponts. On crée des ponts, la conversation, de créer, mais pas au prix de l'humanité de personne, que ce soit de la population blanche, de la population noire, ou bien nos premiers peuples, nos premières nations. Voilà, on a une histoire, elle n'a pas toujours été glorieuse. Et la pire de choses qu'on fait, c'est d'essayer d'être, comment je dis, colorblind, non, de la pire de choses, d'essayer toujours d'être surpris. Le but, c'est pas de... Et ça, j'en profite parce que je vais faire des présentations aussi aux élèves de l'école secondaire et de la division scolaire franco-manitobaine. Et ça, le message que je vais apporter et aussi apporter à vos auditeurs, c'est très important. Je leur dis, il faut pas avoir le déni. Moi, j'aime bien un philosophe, j'oublie le nom, mais un philosophe qui dit toujours, à chaque génération, naît un nouveau peuple. C'est-à-dire qu'à chaque génération, naît un nouveau peuple et nos pas ouvrent le chemin pour faire mieux. C'est-à-dire qu'il faut raconter l'histoire, pas des histoires, pas essayer de faire, il faut raconter des histoires. Par exemple, la Cour suprême l'a dit, par exemple, le dire, on a découvert avec les fosses communes, avec les pensionnaires, tout le monde était surpris, mais nos concitoyens des Premières Nations nous disent ça depuis des décennies, des atrocités, mais on est toujours surpris. Et je comprends, hein, et puis j'ai beaucoup de mes amis blancs, on a grandi ensemble, qui me le disent, parce qu'avec le mouvement qu'il y a eu avec George Floyd, il y a beaucoup dans leur famille, hein, autour d'eux, avec des amis, ils ont eu des conversations franches, ouvertes, et moi, avec mes amis, je dis, écoutez, moi, je ne suis pas là, je je suis pas au tribunal ici. Il faut parler, il faut être. Et puis, ils m'ont donné leurs sentiments, comme on dit, unfiltered. Voilà, c'est à personne qui va se faire cancel ou je ne sais pas trop là maintenant qu'on fait. Maintenant, ils donnaient leur besoin. Ils disent voilà, on voit comme si. Voilà, il y a culpabilité, on nous blâme. Il y a d'autres personnes qui disent que moi, nécessairement, je n'étais pas là. Je parle dans les années 1800, 1500, donc je ne veux pas porter le poids. Je dis oui, c'est très vrai, c'est pas, mais en même temps, on ne peut pas profiter d'un héritage et voir juste le bon côté. Et moi, je dis, c'est lorsqu'on sait vraiment, on se dit vraiment la vérité et qu'on peut faire mieux. Évidemment, le Canada de 2022 est bien meilleur que le Canada de 1867, qui était bien meilleur que le Canada de 1967. Et je peux vous garantir que le Canada de 2067 sera bien meilleur. Mais c'est quand il y a eu le progrès. Mais je le dis que vous pouvez comprendre, par exemple, il y a eu le problème de déboulonner des statues. Je dis, par exemple, lorsque vous regardez Sir John A. Macdonald, peut-être pour une frange de la population, on peut voir le père fondateur, le bâtisseur et trucs. Mais pour une autre frange de la population, il a aussi ses côtés sombres. Il a aussi prononcé, traité nos premières nations, voilà, des sauvages. Il y a eu une loi qui s'appelait la loi sur des sauvages. Il y a eu des discours qu'il a fait. Il y a eu des actes qui ont été commis, des politiques. Je veux dire, et c'est ça la beauté d'une chose, c'est la complexité. Je pense qu'on est trop dans des raisonnements binaires, sectaires, ou vrai, faux, tout ça. Non, les mondes sont complexes. Il faut le prendre dans leur complexité, le côté bien, le côté mal. Il faut aussi comprendre que les lieux publics, c'est les lieux qu'on décide de célébrer des gens. Et puis, il faut comprendre que lorsqu'on célèbre Sir John A. Macdonald, si on veut donner la vérité et non un récit de vainqueurs sur des vaincus, mais la vérité sur notre histoire, on dit oui, c'est un père fondateur, il a fondé, il avait des qualités, mais il a aussi fait des choses... Pas convenable, qu'il faut en parler, pas pour excuser, pas pour essayer de culpabiliser une frange de la population blanche, non, pour expliquer que voilà, tu n'es pas John A. Macdonald, mais ça c'est arrivé, et c'est ensemble, comme j'ai dit, chaque génération, ensemble, on va dire, ben, nous, dans notre génération, on ne va pas le faire. On a juste à voir, dans chaque génération, je veux dire, et je le vois même avec mes nièces, quand je vois même avec leurs amis, je dis, leurs amis s'appellent blancs, et voilà, ils sont... tant aussi choqué que de dire que tu as refusé, par exemple, la nourriture ou bien des services à son ami parce qu'il est noir ou bien son ami parce qu'il est... Voilà, c'est ça, ce genre de conscience, parce que pour dire que les gens prennent conscience et ensemble, on va avancer. Donc, j'ai fait une longue réponse juste pour dire que c'est vraiment ça le but, pour dire que chaque frange, on est ensemble. Il peut y avoir des barrières, c'est à nous aussi d'être là en avant, de faire voir. Et ça rejoint avec tous les francophones en général, de faire voir notre présence, de faire savoir qu'on est là, on n'ira nulle part. Quand on te pose la question, machin, tu viens d'où, mais est-ce que tu es vraiment comme moi, on s'en fout. Les gens sont là pour y rester, et puis les gens ne se laisseront pas faire, et donc il ne faut pas se laisser faire. Et puis il faut calmement, il faut dire, parce que les gens vivent, quoi. Il y a des voisins dans votre, et puis. Ceux qui veulent devenir avocats, ils deviennent avocats. Ceux qui veulent devenir docteurs, ceux qui veulent devenir... Et puis ceux qui veulent devenir même juste des ramasseurs de poubelles. Il n'y a pas de sous-métiers. C'est aussi honorable. C'est leur choix, ce qu'ils veulent. Donc, il y a tout le pan de la société. On doit être là, on doit intégrer. Et plus que les gens vont nous voir, et plus qu'ils vont savoir qu'on est là, et plus qu'ils vont savoir qu'on est là pour y rester. Donc, c'est un peu le but du comité politique pour faire long. Merci beaucoup.
Oui, si je comprends bien, maître, ce comité d'action politique est ouvert à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de limite. C'est donc tout le monde qui est intéressé peut peut-être adhérer ou bien s'intéresser aux actions, je crois.
Tout à fait. On fait des actions. Okay. Et puis, comme là, on va voir des élections au Manitoba, par exemple, tu vois, des questions. Ben, moi, je mets plus l'emphase sur bon, moi, je sais que les boomers et tout nous donnent beaucoup de fun, nous, les millennials, là. Mais moi, je suis un millennial, donc fièrement. Et puis, c'est vraiment, on vise des jeunes. Bon, quand on dit des jeunes, on est dans la début trentaine, fin vingtaine, etc. pour beaucoup d'entre nous. Mais quand on dit jeunes, entre guillemets, pour dire qu'il y a une conscience politique, ils sont là, c'est tout le monde. Écoute, quand on fait des fois les town halls et tout ça, il y a plein de politiciens, entre guillemets, caucasiens, blancs. C'est pour ça que moi, j'aime pas, bon. Vous savez, biologiquement, on sait que des races n'existent pas, il y a seulement une race humaine, mais bon, construction sociale, Malheureusement, c'est inconfortable de dire, mais il y a des politiciens blancs, il y a des politiciens, par exemple, il y en a plein, il y a eu Jamie Moses, il y a eu Zuma, on a par exemple Audrey Gordon, il y a eu, par exemple, moi j'ai eu pour faire campagne pour le professeur Mamadou Ka, par exemple, lorsqu'il s'est présenté ces élections. Voyez-vous, c'était pour le Parti progressiste conservateur. Il y en a eu plein d'autres qui étaient dans le parti libéral. Donc, c'est vraiment pluriel, jamais, parce que je suis une personne plurielle. C'est vraiment pluriel, ouvert à tout le monde. C'est vraiment pour des gens de bonne volonté qui veulent aider des jeunes, qui veulent aider des jeunes qui ont le leadership. Hein, quelqu'un qui a, par exemple, quelqu'un qui a été conseiller municipal, hein, parce que tout le monde veut seulement, mais c'est vraiment au point de vue municipal où nos vies sont vraiment affectées. Voilà, il peut dire, voilà comment ça se passe vraiment dans le conseil municipal. C'est vraiment souvent aussi quand on a l'information là, comme on voit les mentorats, voilà, ça donne aussi du goût aux gens de voir que oh, je peux accéder, je peux le faire dans les médias, il y en a dans les, voilà, il faut intégrer la société. Il faut juste dire à tout le monde et pas être dans la marge. Et c'est le même discours que j'ai même avec, parce que là, l'opportunité que j'ai beaucoup de clients aussi de premier peuple avec les défis qu'ils vivent. Et moi, je leur dis toujours, voilà, ils me trouvent un peu que je pousse un peu, mais ça, c'est mon tempérament. Je suis juste comme ça. Mais je leur dis, il faut, de plus en mesure, il ne faut pas rester dans la marge. Il faut intégrer le mainstream. Il faut faire voir que, voilà, on est là, on n'est pas marginal ou tout ça. Et ça aussi, c'est une forme de résistance. Vous savez, Jean-Paul Sartre le disait, avant de résister, il faut exister d'abord. Hein? Donc, il faut s'assurer qu'on existe et puis de dire aux gens qu'on est là, on n'est pas dans la marge, on est là. C'est vraiment ça le but pour dire qu'on est présent. Et puis, voilà.
Tout un message vraiment important à partager avec nos auditeurs, auditrices. On parle de Conversations in Black, une série de vidéos YouTube animées par Maître Jean-René Dominique Quilou avec nous en ce moment. C'est vraiment une belle initiative. On voit toutes sortes de dialogues importants qui se font. J'aime surtout l'attitude là de promouvoir ce dialogue. Bien sûr, il y a des manières saines de le faire, mais on ne devrait pas se cacher. Je pense que c'est vrai. Les différentes communautés ont besoin de se voir intégrer. Et puis ça, c'est un projet partagé, je pense, pour tout le monde. Mm-hmm. Et puis,
pour ne pas vous couper, je vais dire que et la société, c'est juste faire un petit aparté, je vous assure, je ne serai pas long. Malheureusement, nous avocats, on a le défaut, on parle beaucoup. Donc, mes excuses à vos auditeurs.
Ah, ça va,
je vais essayer d'être concis. On est dans la société, je pense qu'on s'affaiblit dans le genre où on a même peur de la violence. Vous savez, deux fois, la colère, la violence, elle est fondatrice. Elle est fondatrice, elle est créatrice, elle est très importante. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les gens veulent trop être politisés, politiquement corrects, ils ne veulent pas blesser. Non. Moi, souvent, et c'est que moi, bon, dans mon petit coin avec les amis, par exemple, je vais vous donner par exemple l'histoire... Et j'ai eu dans une conversation, on a fait, c'était informel, pendant le gros manifestation de George Floyd et tout, et tout, et tout. Et il y avait une mère qui est arrivée, elle est blanche, son mari est noir, voilà, et ils ont des enfants métis, mais ce sont des enfants noirs dans la communauté. Et puis, elle vous dit, et puis il y avait une autre mère qui était là par rapport à comment la police fait aux enfants et tout ça. Et puis, la mère blanche disait, voilà, quand mes enfants sont à l'extérieur là, c'est, voilà, la police ne pose pas des questions si c'est des enfants, leur maman est blanche ou pas. Vous comprenez? Ils se font ces bavures-là et quand ils rentrent à la maison, ils me disent. Donc, et elle a le droit de dire qu'elle ne va pas se faire censurer ou bien qu'elle ne comprend pas ce que ses propres enfants vivent sous prétexte parce que c'est une femme blanche, par exemple. Vous comprenez? Alors, si on se censure nous-mêmes, on s'est dit, oh non, on ne veut pas faire blesser, non. Il faut entendre cette femme-là qui dise « Oui, je suis une femme blanche, peut-être j'ai des biais, peut-être je ne comprends pas de trucs, mais là, je suis une mère, j'ai des enfants qui vivent ça et je comprends ça. » Dans nos trucs, on peut avoir nos amis qui, s'ils sont blancs, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. C'est vraiment comme ça que souvent comme ça qu'on fait, on fait un changement. J'ai eu, par exemple, quand moi je grandissais, j'étais petit, et, écoutez, j'avais des grands-parents de mes amis, ils disaient des choses complètement incroyables qui sortaient de leur bouche. Vous comprenez, c'est une autre génération. Et puis tu voyais soit les parents de mes amis ou bien eux-mêmes, ils étaient très mal à l'aise et puis ils me demandaient des paroles. Moi, je disais, mais non, c'est trop facile. Je peux dire à la pauvre madame qu'elle est raciste, tout ça, mais il faut une discussion. Et puis quand je pose question à madame, eh bien, c'était pour elle la première fois qu'elle voyait une personne noire, par exemple. Et tout ce contact qu'elle a vu, par exemple, elle a vu ça dans des films, dans des reportages et tout. C'est quand même une histoire drôle. Par exemple, elle venait de Saint-Malo et je voulais juste lui montrer comment c'est un peu ridicule et tout ça. Et puis, en discutant, voyez-vous, et puis je lui ai dit, mais je ne vais pas dire son nom évidemment, je lui ai dit, oh, mais madame, vous savez, j'ai vu à la télé qu'à Saint-Malo, on mange des enfants. Elle dit, mais non, mais voyons donc, qui peut dire des choses comme ça, à Saint-Malo, on mange des enfants. J'ai dit, ben oui, je l'ai vu à la télé, donc vous aussi, vous êtes cannibale, tout ça. Elle dit, mais pas du tout, comment tu peux dire ça? Tu me connais, tu m'as déjà vu manger des enfants. Elle dit, mais non, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. J'ai dit, mais il ne faut pas croire tout non plus on voit. Et puis, on s'est mis à rire, puis elle a compris. Elle dit, excuse-moi. Vous comprenez un peu, lorsqu'on met les gens à l'aise, lorsque les gens sont là, ils parlent vraiment, c'est là qu'on fait du chemin. Évidemment, même au 18e siècle, le racisme était mal, qu'au 20e siècle, mais il faut prendre les gens où ils sont. Et moi, je viens d'une culture où on ne cancelle pas les gens. Hein, c'est both end. C'est-à-dire qu'on prend des gens où ils sont et puis il y a d'autres personnes, ils font l'évolution. Et je dis souvent aux gens, si on prenait Malcolm X des débuts des années 50, c'était un drogué, c'était un pimp, il était en prison, tout ça. Je pense que la société n'aurait pas été tendre avec lui. Mais quand on prend Malcolm X des années 60, c'est les héros qu'il est, qu'il a inspiré les gens. Mais il y a eu une progression. Il y a eu une évolution, il a changé des avis, il avait des pensées qui ont changé. C'est-à-dire que cette idée-là de la pureté, moi, ça, franchement, ça commence à me taper le patate parce que les gens évoluent, l'histoire est compliquée, le monde est compliqué, les gens sont compliqués, les gens ont leur passé, ont leur vécu, les gens ont leur biais. Et je pense qu'on a intérêt lorsqu'on antagonise les gens, mais ils ne changent pas, on les confronte. On se dise de vérité, ça peut être violent, c'est normal, les gens ont des colères. Après que la colère, parce que la colère, c'est aussi l'expression des opprimés souvent, tellement qu'ils n'ont pas de pouvoir, c'est la seule chose qu'ils ont à rester, c'est exprimer cette colère-là. Après que la colère est descendue, on se dit des vraies affaires. Et puis juste, donc, pour les auditeurs qui nous écoutent vraiment, de se dire s'ils ont des amis, même j'ai vu des familles, des petits-fils avoir des conversations avec leurs grands-parents. Et ça, je parle de mes amis blancs, hein, des conversations avec leurs grands-parents, avec leurs propres parents, des autres amis. Donc, il faut, je leur dis, soyez calmes, soyez patients, soyez indulgents entre vous. Comprenez que c'est l'évolution. Hein, les gens évoluent. Ce n'est pas nécessairement parce que je peux vous garantir des choses que je pensais quand j'avais 15 ans, 16 ans. Ce n'est pas les mêmes idioties que je pense maintenant. Hein, donc, on se calme un peu. On laisse aux gens les temps de grandir, les gens les temps d'évoluer. Et puis, de prendre les gens où ils sont et puis de faire ce chemin-là avec eux. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. La violence, c'est bon. Il faut dire qu'est-ce qu'on nous reproche entre nous, mais il ne faut pas perdre que... Il faut prendre cette culture-là de l'évolution parce que tout le monde n'est pas toujours blanc comme neige. Voilà.
Il y a des conversations difficiles, il y a des questions difficiles, mais c'est ça que ça prend. Et c'est ça qui crée l'ouverture, comme on entend bien Maître Jean-René nous expliquer. Malheureusement, je pense qu'il va falloir qu'on termine cette conversation bientôt. Là. Ça a été tout un plaisir et j'envisage déjà, j'espère, répéter l'exercice pour nos auditeurs, si vous voulez continuer d'écouter la voix de Maître Jean-René, mais peut-être en anglais. Encore une fois, c'était les Conversations in Black. On va mettre le lien dans notre site web là, avec cette émission pour que vous puissiez facilement trouver ça. Vraiment fascinant. N'oublions pas, au 625 rue Marion, le NBS Legal Consulting. Vous pouvez taper nbsconsulting.com pour trouver le cabinet, là où vous allez trouver Maître Benjamin Bassi, Maître Jean-René Dominique Junior Quilou. On l'appelle Junior, OK. Ça a été vraiment tout un plaisir. Ça a été fascinant. Je pense qu'on aimerait absolument continuer la discussion. Merci pour votre temps aujourd'hui et merci à votre cabinet, ce que vous faites ici à Saint-Boniface, à Winnipeg, pour la communauté francophone en particulier.
Alors, merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Je trouve ça apprécié. Juste une petite précision. On assiste aussi, même les gens qui sont dans de communautés rurales francophones, ils peuvent toujours nous contacter. On trouve le moyen, faciliter le transport, aller là-bas ou bien eux nous joindre. La distance ne doit pas être une raison pour. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge, hein, donc
distance, ce n'est pas un objet.
Voilà, on fait des rencontres Zoom, on peut faire des rencontres Zoom. Si vraiment difficulté, on prépare les documents, on peut envoyer par la poste, vous nous renvoyez. Donc, on est flexible, il y a beaucoup de façons. Ce n'est pas parce qu'on est dans des communautés rurales éloignées qu'on n'a pas droit à l'accès à la justice non plus. Donc, on est là aussi pour servir ces communautés-là. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, merci à vous pour l'opportunité que vous me donnez de me faire savoir aussi dans la grande communauté francophone. C'est toujours un plaisir et j'espère que je n'ai pas trop ennuyé vos auditeurs. Et puis, désolé si j'ai été trop long dans mes réponses. Malheureusement, je prends beaucoup de temps pour répondre. Merci à vous.
Au contraire, ça a été vraiment fascinant et c'était très agréable. Merci beaucoup, Maître Jean-René Dominique. Vous avez suivi l'émission Parlons droit ici à la radio Envol 91.1 FM. L'émission vient de la part du Centre Info Justice Manitoba. Vous pouvez y retrouver tous nos services sur www.infojustice.ca. Il y a aussi notre numéro de téléphone, le 204-815-5274. Et puis, voilà, on pourrait vous brancher avec M. Maître Jean-René lui-même, que vous avez entendu aujourd'hui. Et on est de retour en 2 semaines avec une autre émission de Parlons droit. Merci beaucoup et bonne journée à tous et à toutes.